une histoire qui parte d'une question, une histoire qui tutoie le passé, une histoire qui questionne les documents.
Le temps de l'histoire, le temps des hommes, le temps de la vie sociale, c'est un temps multiple.
C'est à partir de cette étude des structures sociales de la société d'Ancien Régime que je suis, si je puis dire, entré en révolution.
20 minutes d'histoire.
Rainer Ullmann, bonjour. Professeur à l'université de la Sarre et à la Sorbonne, vous êtes spécialiste de l'histoire de l'Allemagne contemporaine et êtes intervenu récemment à l'École normale supérieure de Lyon dans le cadre des conférences Grand Angle pour parler de la construction du couple franco-allemand depuis 1945. Aujourd'hui, dans 20 minutes d'histoire pour Transistor, nous aimerions revenir sur cette question à l'occasion des 50 ans du traité de l'Elysée signé par De Gaulle et Adenauer en 1963. Nous y reviendrons bien sûr, mais peut-être nos auditeurs ont-ils à cœur d'entendre enfin le professeur Ullmann. Rentrons donc dès lors dans le vif du sujet. En 1945, l'Allemagne est vaincue, humiliée par une occupation sur tout son territoire, déconsidérée par le procès de Nuremberg auquel la France participa et qui révéla l'horreur du régime nazi. N'avons-nous pas péché par excès de sévérité au risque de nourrir un sentiment anti-français, gros de conflits futurs que le traité de Versailles en 1919 avait laissé prospérer?
Alors là, vous êtes en plein dans les stéréotypes que, paradoxalement, les festivités autour du cinquantenaire du traité de l'Elysée franco-allemand de 1963 ont, me semble-t-il, de nouveau bétonné, au lieu de montrer la complexité du franco-allemand. Cette image, la France qui humilie l'Allemagne, votre formule reproduit très fidèlement des stéréotypes qui se sont ancrés dans les têtes, alors que dans la réalité, la recherche l'a montré depuis une trentaine d'années de façon très très diversifiée, alors qu'en réalité, les changements profonds dans les relations franco-allemandes commencent dès l'été 1945. Le traité de l'Elysée termine une époque difficile, mais il n'est pas au début de cette évolution. Si on dit aujourd'hui, De Gaulle et Adenauer en 62-63 ont décidé que maintenant les deux peuples sont amis, cela obnubile la complexité de la relation franco-allemande. Et cette complexité consiste précisément dans l'enchevêtrement de conflits d'un côté, de stratégies pour les surmonter, de divergences sur lesquelles on discute et de la coopération qui en résulte. En 1945, la France est dans une situation difficile et ambivalente, vaincue en 1940. La décolonisation commence à s'amplifier. Depuis la Première Guerre mondiale, c'est l'Union soviétique et les États-Unis qui sont montés en grande puissance et maintenant en super puissance après 1945. Alors la France réfléchit comment au moins maintenir la position de grande puissance. Et d'un côté, dans le public français, il est hors question de parler d'une coopération quelconque avec l'Allemagne. C'est cette idée-là qui forge les stéréotypes jusqu'à aujourd'hui. Et d'un autre côté, au sommet des administrateurs, des hauts fonctionnaires, au sommet de l'État, notamment du général de Gaulle, il est absolument évident que si la France veut garder une position importante dans le monde, il faut qu'elle s'intègre dans un univers plus vaste, y compris et notamment avec l'Allemagne, ce qui, quelques années après, va mener à la déclaration Schuman, proposition d'intégrer l'industrie lourde en Europe ou dans une partie de l'Europe, et à la fondation de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, qui va forger pendant des décennies les institutions de l'intégration européenne. Alors tout cela commence en été 1945. Les premières directives secrètes du général de Gaulle, que j'avais découvertes il y a longtemps, vont déjà le 20 juillet 1945 dans cette direction, Et les premiers discours, la première série de discours du général de Gaulle en public en Allemagne, qui commence le 3 octobre 1945 à Saarbrück, appelle à la coopération entre, je cite de Gaulle, « Européens de l'Ouest », qui doivent s'entendre. La France n'est pas ici pour prendre. Il développe tout un programme dans ses discours à Saarbrück, à Trèves, à Bad Ems, à Neustadt, le plus important à Fribourg, tout un programme de reconstruction de l'Allemagne sur le plan matériel, comme il dit, sur le plan moral, sur le plan des administrations, et notamment un programme de renouveau de la vie politique que quelques jours après, on commence à appeler officiellement la démocratisation. Et ces discours du général de Gaulle, qui manquent dans l'édition officielle des discours, dont une partie est publiée dans l'édition des notes et lettres et carnets quelques décennies plus tard, sont transformés 15 jours après en directives du chef du gouvernement provisoire pour les administrateurs de la zone française d'occupation. Et s'ensuit immédiatement, depuis l'été 1945 et l'automne 1945, une politique qui, vue d'aujourd'hui, se révèle extrêmement constructive.
Vous montrez dans vos travaux que l'effort politique, notamment français, de démocratisation de l'Allemagne en 1945 s'appuie sur des représentations erronées, notamment héritées de Gustave Le Bon. Et en même temps, cet effort de démocratisation, on a l'impression, à vous entendre, qu'il a été nécessaire pour le partenariat entre les deux pays. Donc quel bilan on peut en tirer aujourd'hui, 50 ans plus tard?
On peut tirer le bilan que intérêt national et intégration transnationale ou européenne, quand ils fonctionnent vraiment, ne sont pas contradictoires. Les intérêts d'intégration sont extrêmement forts. On peut particulièrement bien le montrer autour de la CECA en 1950-52. Aujourd'hui, justement, autour du traité de l'Élysée, presque plus personne ne parle de Robert Schuman, alors que c'est donc le ministre des Affaires étrangères charismatique qui a proposé ce plan en 1950. Et qui est très intéressant parce que d'un côté il y a l'élan, la paix entre les peuples, il y a le but de modernisation de la France, de forcer l'industrie française de se moderniser par la concurrence qui est inhérente à un concept d'intégration, et c'est la conception qui va durer jusqu'au début des années 1990. La sécurité militaire française assurée par l'intégration, parce qu'ainsi on peut surveiller ce qui se passe chez le voisin. Du côté allemand, on veut retourner sur la scène internationale, c'est la politique du chancelier Adenauer, et on veut participer, c'est exactement l'autre côté de la médaille, au contrôle de sa propre industrie lourde, ce qui n'était pas encore le cas auparavant. Donc des intérêts qui se complètent, des intérêts nationaux qui donnent la dynamique. La volonté de paix toute seule n'aurait certainement pas suffi pour mettre en place une machine aussi gigantesque que le développe la CECA en 1952, qui sera reprise par l'économie, par le marché commun, la communauté économique européenne dans les traités de Rome de 1957 et qui, jusqu'aux années 1990, quand ça commence à changer et à s'amplifier, forge les institutions de l'intégration européenne.
On voit bien quel est le point de vue économique que vous développez, mais sous un aspect cette fois géopolitique. Que cherche à faire la France avec l'Allemagne? À l'arrimer à l'Europe contre la tentation éventuellement de satellisation par le bloc de l'Est, ou au contraire à l'inciter à mener une politique d'indépendance à l'égard des États-Unis?
Alors là, nous sommes dans un langage gaullien. De Gaulle va échouer. De Gaulle, quand il retourne au pouvoir en 1958, va essayer effectivement de former une Europe, du côté occidental du rideau de fer, qui soit indépendant des États-Unis, ce qui est complètement infaisable pour la République fédérale, parce que bien sûr, pour sa sécurité, elle dépend des États-Unis. La France, sur le plan militaire, ne peut pas protéger l'Allemagne contre une attaque soviétique. En Allemagne, il y a, depuis le début des années 50, toujours ces deux conceptions. D'un côté, tout faire pour bien construire le partenariat avec la France, et d'un autre côté, ne pas isoler ce qu'on appellera plus tard, dans les années 60, le couple franco-allemand, du reste du monde. Pas uniquement des États-Unis, mais aussi des autres puissances de l'Europe, notamment ceux qui forment le cœur de l'intégration européenne, c'est-à-dire Luxembourg, Belgique, Pays-Bas et l'Italie.
Dans l'histoire de la construction européenne et des relations franco-allemandes, la confiance s'est établie progressivement, en tout cas entre les dirigeants. Et pourtant, au moment bien symbolique de 1989, lorsque le mur de Berlin tombe, une déclaration du président Mitterrand à l'époque fait beaucoup de bruit. Mitterrand semble réticent à l'idée d'une réunification allemande. Alors, comment faut-il interpréter le geste? Est-ce que c'est le vieux retour d'un refoulé anti-allemand, ou au contraire, est-ce qu'il y avait réellement une menace pour le duo franco-allemand dans cette réconciliation? Dans cette réunification entre l'Est et l'Ouest.
Mais, alors tout d'abord, la politique française, et notamment celle du président Mitterrand, a été fort complexe. Là encore, pour l'interprétation, Mitterrand qui a essayé d'empêcher l'unification allemande, nous sommes en plein dans les mythes et dans les légendes. C'est complètement faux. Bien que certains témoins qui étaient contre l'unification allemande aient prêté leurs propres idées, notamment Jacques Attali, leurs propres idées dans leurs écrits au président Mitterrand. Donc le travail de l'historien peut être difficile, même quand on a des témoins de première main, en quelque sorte, qui font plutôt leur propre politique que d'analyser la situation. Alors, les hésitations du président Mitterrand, à mon avis, s'expliquent par tout un ensemble de facteurs. Tout d'abord, bien sûr, il était très méfiant vis-à-vis d'une unification allemande. Il le partageait avec une partie considérable de la population allemande, qui était très méfiante aussi, vu les expériences avec le national-socialisme et avec le nationalisme. Il est partagé avec une partie considérable de la population allemande qui était très sceptique vu l'histoire du nationalisme allemand depuis le 19e siècle et notamment, bien sûr, le national-socialisme. Donc, c'est clair, la méfiance. Un deuxième facteur est l'autodétermination, toujours respectée par la France, au moins en Europe, par exemple avec le retour de la Sarre en 1955, contre les projets entre le gouvernement de Bonn et de Paris, tout d'un coup, un vote sarrois qui va dans une direction complètement différente. On voulait européaniser la Sarre. À ce moment-là, en 1955, c'était illusoire. La communauté européenne pour la défense avait juste échoué. L'Europe semblait être illusoire, mais la France a quand même respecté ce vote interprété comme un vote pour le retour à l'Allemagne. Le général de Gaulle, en 1959, a déjà annoncé aussi qu'il s'attendait à long terme à une unification allemande, sauf qu'il fallait qu'elle ne menace pas la Pologne et les frontières de la Pologne, comme ils ont été dessinés en 1945 de facto. Tout un ensemble de lignes de longue durée dans la politique française et toujours ce principe d'autodétermination. Si les Allemands veulent s'unifier, on le respecte. Troisième élément, ce que je viens déjà d'évoquer, les frontières occidentales de la Pologne, qui en principe politiquement étaient claires depuis le traité entre la République fédérale et la Pologne en 1970, renonciation à l'emploi de la force et modification des frontières seulement par accord commun, mais néanmoins en 1990, parce qu'il n'y a pas eu jusqu'à aujourd'hui de traité de paix comme à Versailles pour terminer la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est allée au-delà. En 1990, nous avons un traité 2 plus 4, les 4 alliés et les 2 Allemagnes, mais pas un traité de paix comme on le fait au 19e et au début du 20e siècle. Donc, puisqu'il n'y avait pas ce traité de paix, en Pologne, il y avait d'énormes craintes. Si on met en question la frontière entre les deux Allemagnes, est-ce que ça ne peut pas aller plus loin? Et donc là, le président Mitterrand a dit garantie préalable au renforcement de la... Non. Là, le président Mitterrand a dit confirmer cette frontière occidentale polonaise avant d'aller plus loin. Et là, le chancelier Kohl avait hésité, personnellement je le trouve extrêmement problématique, mais avait hésité de faire une nouvelle déclaration, puisqu'il l'avait déjà fait, aussi en tant que chancelier, maintes fois, notamment la veille de la chute du mur, ou de l'ouverture du mur, à savoir le 8 novembre 1989. Alors un quatrième élément très intéressant, c'était la stabilité ou déstabilisation à Moscou. Dans les analyses occidentales, parfaitement fondées, on voyait parfaitement que la position de Gorbatchev avec la perestroïka pouvait être mise en question du côté soviétique, surtout on ne savait pas très bien ce que ferait le KGB et l'armée rouge. Conclusion de Mitterrand, aller lentement pour ne surtout pas déstabiliser Gorbatchev par une unification trop rapide de l'Allemagne. Conclusion de Kohl, exactement le contraire, aller très vite tant que Gorbatchev n'est pas encore déstabilisé. Donc, même analyse, conclusion contraire, et bien sûr les deux avaient raison. Vous voyez la complexité de la situation. Cinquième élément, la question parallèle pour l'Europe de l'Est, qu'est-ce qui se passe en Hongrie, qu'est-ce qui se passe en Roumanie, qui n'est pas stabilisée jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Bulgarie, qui est difficilement stabilisée jusqu'à aujourd'hui, donc même à deux décennies de distance, les questions se posent encore. Et qu'est-ce qui se passe en Europe de l'Est? Si on va trop vite avec l'unification allemande, est-ce que ça ne va pas mettre le chaos à toute l'Europe de l'Est?
Ce qui est étonnant dans votre réponse, c'est que vous montrez que l'Allemagne reste encore, au début des années 90, la locomotive d'une Europe de l'Est, ce qui éventuellement pourrait accréditer la thèse sarkozyste développée ces dernières années d'une France qui, en revanche, elle, aurait à se concentrer davantage sur l'Europe méditerranéenne, donc scindant l'Europe en deux parties. Est-ce que je vous suis bien, ou alors est-ce qu'au contraire, il faut renoncer à cette vision?
Bon, là, nous sommes dans les opinions plutôt politiques. Et pas uniquement scientifique. Je pense personnellement que la Méditerranée concerne l'Europe entière. Les liens entre l'Allemagne et les pays de la Méditerranée sont extrêmement étroits, non seulement avec l'Italie, mais les liens avec la Libye étaient très forts, les liens avec l'Égypte, avec d'autres pays. Donc, cette idée de... réflexion géopolitique qui est tout à fait dans la tradition des idées politiques en France, qui est beaucoup moins forte en Allemagne parce que la géopolitique a été complètement déconsidérée par son utilisation par les nazis. Cet héritage du national-socialisme que vous trouvez partout dans la culture politique de la République fédérale, complètement incompréhensible sans cette confrontation permanente au Troisième Reich, là vous l'avez encore. Mais il y avait effectivement, d'après ce que disent les diplomates, aussi à l'intérieur du gouvernement allemand au début des années 90, des idées « laissez-nous une certaine prérogative en Europe de l'Est ». Ce qui n'était certainement pas l'attitude générale de la population allemande, mais dans les think tanks, comme on dit aujourd'hui, il y avait cette conception aussi. Personnellement, je ne la partage pas. Personnellement, je pense que l'unité du continent, y compris dans ses relations extérieures, qui marchent toujours difficilement, toujours aujourd'hui difficilement, que cette unité du continent est absolument fondamentale pour l'Europe. Mais ce sont des conceptions de base différentes.
Nous avons parlé de la lente construction européenne et de la reprise du dialogue franco-allemand après la Deuxième Guerre mondiale. Et avec notamment des actes symboliques extrêmement forts, la CECA, la CE, puis ensuite l'Union européenne suite au traité de Maastricht. Et pourtant, il reste, si ce n'est auprès des dirigeants, en tout cas auprès de la majorité des citoyens, une forme de réticence, que ce soit au Parlement français avec le rejet de la CED ou plus récemment encore avec le rejet du traité européen par la France en 2005. Comment expliquer, malgré le succès réel, par exemple, de l'OFAGE, c'est-à-dire de l'envoi de 200 000 jeunes par an, de 200 000 jeunes français également dans le pays voisin, comment expliquer encore qu'il y ait cette réticence, cette défiance à l'égard du voisin, alors que ce couple forme pourtant le noyau dur aujourd'hui de ce que doit être l'Europe?
Moi, j'ai toujours du mal avec toutes ces catégories, réconciliation, amitié, même méfiance, défiance. Je crois que... On comprend mieux si on essaye d'analyser les situations politiques. Prenons la CED. Évidemment, il y avait une grande méfiance vis-à-vis de l'Allemagne. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois, qui est un facteur important à certains moments. Mais la CED, si finalement elle a échoué, c'est parce que c'était exactement le moment où les militaires français ont informé le gouvernement qu'ils avaient la certitude maintenant de fabriquer une bombe atomique française. Et à ce moment-là, on a dit, laissez les Allemands dehors. Deuxième problème, puisque vous citez l'exemple, dans la CED, la France avait réussi à laisser les troupes dans les colonies en dehors. Et tout d'un coup, le haut commandement français a réalisé que, du coup, l'armée française était petite et que l'Allemagne risquait d'avoir le commandement suprême suite à ce trucage français. C'est-à-dire, on s'est tout simplement trompé sur les calculs parce qu'on n'a pas bien calculé. Et ces facteurs-là, absolument pas discutés, bien évidemment, dans le public, étaient les facteurs décisifs pour que, finalement, le gouvernement ne soutienne plus la CED à la Chambre des députés, qui donc l'a tout simplement évacué de l'ordre du jour. Mais la CED, c'est un cas typique. On a l'impression que l'Europe va dans le mur. Et immédiatement après, en octobre 1950, la CED est refusée le 30 août. En octobre 1954, la solution est là avec les accords de Paris, résolution du problème de la SAR qui bloquait tout, par un référendum sur ce statut européen. Bon, finalement, ça n'a pas donné un statut européen, mais le retour ou l'intégration à la République fédérale. Et l'accord entre les trois alliés sur la politique allemande, qui a été la décision fondamentale valable jusqu'en 1990, c'est-à-dire confirmation que les quatre alliés, quatre puissances occupantes de 45, sont responsable des questions concernant l'Allemagne dans son ensemble. Et c'est un septième facteur essentiel pour le président Mitterrand en 1989-90. Il était personnellement, juridiquement, en droit international, responsable de ce qui se passe avec l'unification allemande. Ce n'était pas une opinion quelconque. Il avait le devoir de s'en occuper et la responsabilité si c'était mal fait. Ce qu'on oublie complètement dans la discussion dans les médias. Alors pour 54, une fois ces accords conclus, d'une rapidité absolument époustouflante, repart l'intégration européenne et en 59, on est au marché commun avec les traités de Rome. C'est-à-dire les crises et les coopérations, une fois de plus, exactement dans les exemples que vous venez de mentionner, sont complètement enchevêtrés. Il n'y a pas une contradiction entre coopération et crise. Il n'y a pas une contradiction entre divergence et coopération dans les relations franco-allemandes et dans leur contexte européen. C'est ça qui fait la dynamique du franco-allemand. Ce n'est pas une question d'interprétation. La dynamique du franco-allemand est faite depuis 1945 par cet enchevêtrement de ces facteurs qui, du point de vue sémantique, paraissent opposés et qui sont opposés, donc, de nouveau dans la discussion des médias, actuellement pour le cinquantenaire de l'Élysée. Alors, le traité de l'Élysée, évidemment, il est important, il est un grand symbole à l'époque, un symbole très émouvant, notamment aussi avant le grand discours du général de Gaulle en langue allemande à la jeunesse allemande à l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, un discours très très impressionnant, sauf qu'on oublie qu'un langage semblable, il l'a déjà employé en 1945. Donc cela ne tombe absolument pas du ciel. Mais le traité, il faut le voir à deux niveaux. Le traité a certaines stipulations. La seule chose qui fonctionne vraiment, c'est l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui prend son envol. Et autrement, après le traité, les relations franco-allemandes depuis 1949 n'ont jamais été aussi mauvaises qu'après le traité de l'Élysée. Parce que le Bundestag confirme la priorité pour les relations avec les États-Unis, donc exactement ce que le général de Gaulle voulait empêcher. La République fédérale s'aligne sur la stratégie militaire américaine en Europe, ce que le général de Gaulle voulait absolument empêcher, etc., etc., etc. C'est-à-dire, au sommet, les relations sont très mauvaises, jusqu'au départ du général de Gaulle, mais d'un autre côté, et malgré la politique française de boycotter, par exemple, la politique de la chaise vide, comme on l'appelle, de boycotter la commission à Bruxelles pendant 6 mois en 1966, malgré la décision française de sortir de la partie militaire de l'OTAN, l'Europe avance, le marché commun est terminé 6 mois plus tôt que prévu dans les traités de 1957. Dès le début de 1967, il est conclu. Donc, cela continue. Là, nous avons un parallélisme entre des grandes crises qui sont dans tous les esprits et d'un autre côté, les structures qui évoluent encore.
Et vous montrez bien, et je crois que c'est un des grands intérêts de votre propos, le caractère intrinsèquement lié de la crise et du renforcement du partenariat. Et pourtant, lorsqu'on observe les relations franco-allemandes depuis 1945, il est clair que les intérêts, vous l'avez d'ailleurs déjà en partie dit, sont systématiquement radicalement différents. La France cherche à museler l'Allemagne, l'Allemagne recherche une autonomie, et aujourd'hui encore, les objectifs sont très divers. On peut le voir dans les déclarations germanophobes d'Arnaud Montebourg. Alors, est-ce qu'on peut fonder réellement un partenariat durable lorsque les intérêts, notamment économiques, sont à ce point divergents ?
Depuis plus d'un demi-siècle, ça marche. La France n'a pas essayé de museler l'Allemagne. C'est une idée vraiment fausse. Ça correspond à une partie du discours officiel parce que la population française n'aurait pas supporté autre chose après 1945 pour des raisons évidentes du régime de terreur nazi en France pendant l'occupation, les massacres, etc.
Donc c'est le résultat du double discours des gaullistes, à la fois très souverainiste en France et en même temps ouvert à l'Allemagne lorsqu'ils étaient outre-Rhin.
Pas seulement les discours, mais la pratique. C'est la pratique qui compte. Et la pratique française, imaginez-vous, dès octobre 1945, on fonde une direction des beaux-arts à l'intérieur du gouvernement militaire français à Baden-Baden. Et c'est une direction qui, avec les autres directions culturelles, va organiser 50 expositions en Allemagne entre 1945 et 1949. Dont, par exemple, une d'art contemporain pour lesquelles Chagall, Matisse, etc., dans leurs œuvres, qui traversent toutes les zones d'Autriche, toutes les zones en Allemagne, qui a plus de 100 000 visiteurs à un moment où les chemins de fer ne fonctionnent pratiquement pas, les ponts sont détruits, on n'a pas de voiture, etc. Un succès absolument gigantesque. Dans cet esprit de démocratiser l'Allemagne en ouvrant en quelque sorte les têtes allemandes qui étaient enfermées dans l'idéologie nazie depuis 1933 pour leur montrer comment le monde contemporain est là pour l'art contemporain. A évolué depuis. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Museler l'Allemagne est une perception de l'époque qui passe à côté de la réalité qui évolue. Par exemple, le contrôle. Donc, une partie de cette idée de muselage. Tout le monde a contrôlé, les Américains ont très étroitement contrôlé, sauf sur le plan tactique, ils étaient un peu plus habiles que certaines autorités françaises. Mais dans le fond, la politique américaine était très très proche de la politique française. Sauf que, avec la France, il y avait depuis l'époque moderne, dans les têtes, le bagage des guerres depuis le 19e siècle, on les exprime en termes de nations, entre les deux nations. Avant, c'était des dynasties qui se faisaient la guerre. La destruction du Palatinat à la fin du XVIIe siècle était dans toutes les têtes parce que le château de Heidelberg, il est toujours en ruine, donc c'est présent. On s'attendait à une politique de revanche, déjà, parce que l'Allemagne avait quand même commis des crimes de guerre en France. Les nazis, dans leur propagande, avaient annoncé « Attention, si on perd la guerre, nous serons assujettis ». Il y a ce bagage de la mémoire des incorporations de forces par Napoléon, etc., la grande armée qui en partie considérable était constituée d'Allemands, etc., etc., etc. Tout ça, jusque dans les chansons populaires, est présent. Donc il y a une certaine préfiguration des esprits qui interprète la politique française, même quand elle est très semblable de la politique américaine et britannique à certains égards, de façon complètement différente. C'est extrêmement intéressant à observer. Et vos questions le reflètent, la formulation de vos questions le reflète jusqu'à aujourd'hui. Et cette idée qu'il faut travailler avec l'Allemagne pour maintenir la grandeur française dans le monde est évidemment une idée qu'en 1945, 46, 47, on ne peut pas encore distribuer dans le public français. D'où cette expression de mon collègue Dietmar Hüsa qui parle d'une double politique française, un discours assez dur et une pratique qui vise l'avenir, parce que si la France s'isole dans une politique d'autarcie, eh bien c'est fini de la puissance de la France. Ces idées, Jean Monnet les avait entre les deux guerres déjà, Adenauer les avait entre les deux guerres, Jean Monnet les a développées au gouvernement français d'exil à Alger dès 1943, des hauts fonctionnaires, il y a de grands diplomates comme Hervé Alphand, par exemple, qui les défendent de façon acharnée à l'intérieur des administrations françaises. La discussion est très, très acerbe. La France est très affaiblie par les 4 années d'occupation. Elle a un mal énorme à prendre en main l'administration de sa zone. Il y a des hauts fonctionnaires extrêmement qualifiés qui arrivent en zone, des grands économistes comme par exemple Jacques Rueff, qui est le conseiller direct du commandant en chef général Koenig pour les affaires économiques. Jacques Rueff, un des plus grands économistes du libéralisme économique de ces années, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Et donc la pratique, bon, la politique culturelle, c'est la plus évidente, la plus connue aussi à l'époque. Il y a les réformes, par exemple, de la sécurité sociale qui concernent toute la population allemande, une grande œuvre annulée par la République fédérale en 1949. Et depuis, la République fédérale, petit à petit, a pris les mêmes mesures que les Français avaient déjà prises en 1986, sauf que ça a duré jusqu'à la fin du XXe siècle. Donc les Français étaient bien plus rapides, pour simplifier un tout petit peu les choses, mais les problèmes de base étaient ceux-là. Donc le contrôle, notamment, quand on regarde en détail, on observe que très vite après la guerre, les clivages passent, non pas entre forces d'occupation et Allemands assujettis, comme vous dites, mais entre les administrations. Par exemple, les administrations financières françaises et allemandes étaient d'accord pour certaines mesures contre les administrations mettant des affaires intérieures. C'était extrêmement difficile de gérer un pays quand même, après les batailles de la fin de la guerre, assez largement détruit. Et d'organiser ce que le général de Gaulle donc appelait des 45, le travail ensemble à la reconstruction, très controversé bien sûr à l'intérieur de l'administration française. Et c'est pour cela que je considère que parmi toutes les idées qui fusent, ceux qui ont été vraiment réalisés doivent être un argument non négligeable. Si vous voulez, pour le formuler de façon différente, je pense que pour maintenir cette idée d'une politique de revanche qui change soit en 1950, soit en 1962-63, mettons qu'il faut exclure de l'analyse environ 2/3 de la réalité, ce que je trouve méthodiquement inadmissible en interprétation historique.
Professeur Ullmann, merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci aux auditeurs de 20 minutes d'histoire d'être restés avec nous et de vous montrer surtout si fidèles à cette émission. Au revoir.
Une histoire qui parte d'une question. Une histoire qui tutoie le passé. Une histoire qui questionne les documents.
Le temps de l'histoire, le temps des hommes, le temps de la vie sociale, c'est un temps multiple.
C'est à partir de cette étude des structures sociales de la société d'Ancien Régime que je suis, si je puis dire, entré en révolution.
20 minutes d'histoire.